Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Washington, 13h en temps universel. Suite de notre édition spéciale, juste après le journal, on va parler évidemment de l'investiture de Donald Trump. Et c'est aussi ce qui fait la une de votre journal. Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Nous sommes à H-4 avant la cérémonie qui va voir Donald Trump devenir le 47e président américain.
Donald Trump a promis un nouvel âge d'or à l'Amérique. Il a annoncé pêle-mêle d'expulser des millions d'immigrés, de prendre le contrôle du Groenland et de gracier la plupart des inculpés de l'insurrection du Capitole. D'ailleurs, le milliardaire républicain sera officiellement investi à l'intérieur du Capitole et non à l'extérieur sur les marches. Le protocole de la cérémonie a été chamboulé pour cause de grand froid.
Et la fête pour ses partisans a déjà commencé à Washington.
C'est une grande tradition américaine. Des bals sont organisés pour célébrer la transition. Notre envoyé spécial David Thompson a pu assister à l'une de ces soirées mondaines, celle de la communauté hispanique pro-Trump, très sélecte et très politique ambiance.
Le grand bal d'inauguration de la communauté hispanique commence évidemment sur un air de mariachi. Toute l'élite latino pro-Trump des États-Unis est rassemblée en tenue de soirée dans cette salle majestueuse d'un grand hôtel de Washington pour célébrer la victoire de Donald Trump dans l'euphorie. Les latinos ont largement contribué à sa victoire. 43% ont voté pour le président élu, c'est 8 de plus qu'en 2020. Anya et son mari sont venus de Miami pour fêter son inauguration.
Il fait mieux cette fois à cause de l'économie, mais aussi parce que beaucoup d'électeurs latinos sont très conservateurs. L'administration Biden parlait beaucoup de ces histoires de trans et de genre. C'était ça le problème.
Fille de pasteur cubain exilé, Anya est arrivée aux États-Unis en 1981. Elle-même immigrée, elle soutient pourtant à fond la promesse d'expulsion de masse de Donald Trump.
Nous, on est venus légalement. Pourquoi laisser entrer n'importe qui comme ça? C'est fou.
Avec son mari Carlos, ils ont totalement intégré la rhétorique trumpiste qui assimile immigration et insécurité.
Les gens qui sont entrés dans notre pays depuis 4 ans, on pense qu'ils sont là pour nous faire du mal, de l'intérieur.
Dieu est avec nous, s'enthousiasme un orateur à la tribune. Fervents évangéliques, Carlos et Anya en sont eux-mêmes convaincus. C'est la providence qui aurait sauvé Trump de sa tentative d'assassinat pour mener à bien son projet. Bertrand Eclair, David Thompson, Washington RFI.
À l'étranger, les diplomaties scrutent les premiers pas de Donald Trump, qui a promis un grand chambardement.
Chacun tente d'anticiper les répercussions d'un nouveau mandat du républicain plus aguerri désormais. En France, le Premier ministre François Bayrou prévient, faute d'action, la France et l'Union européenne seront écrasées par la politique de Donald Trump. À Moscou, même si le 47e président américain affirme sa volonté de parvenir à la fin rapide de la guerre en Ukraine, ce qui pourrait être favorable à la Russie, c'est la prudence qui domine. La correspondance d'Anissa El-Jabri.
La couverture médiatique est très en retrait. Rien à la une des télévisions. Encore ce matin, certaines chaînes de premier plan ont même relégué le sujet à la fin de leurs éditions. Et encore avec un reportage revenant sur le discours de Trump hier soir. Pour en savoir un peu plus, il faut quitter le petit écran russe, massivement suivi en Russie et prescripteur, et se pencher sur la presse écrite. La question qui revient le plus souvent, c'est à quoi faut-il s'attendre? Et à cette question, le journal Vedomosti répond « Ce qui est important, ce n'est pas ce que Trump et son équipe sont prêts à offrir en mots, mais ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Le journal RBK, lui, juge que le deuxième mandat de Trump sera différent du premier. Il le voit comme, je cite, « plus expérimenté et plus endurci ». Reste que là aussi, dans ce journal revient la même ligne. Écoutez plutôt, le républicain, dans son style de communication caractéristique, a déjà beaucoup parlé et beaucoup promis d'un règlement rapide de, je cite toujours, « la crise ukrainienne » au désir d'acheter le Groenland et d'intégrer le Canada aux États-Unis. Conclusion du journal, Trump promet beaucoup, mais il n'y a toujours pas de clarté sur les étapes concrètes. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Au Proche-Orient, la trêve négociée conjointement par les administrations Trump et Biden se poursuit.
Hier soir, 90 Palestiniens ont été libérés de prison en échange de 3 otages israéliennes relâchés quelques heures plus tôt. La trêve a aussi permis à 260 camions d'aide humanitaire d'entrer à Gaza. Et maintenant, Quelle gouvernance pour l'enclave palestinienne dévastée? Depuis Ramallah, l'autorité palestinienne se dit prête à y assurer ses responsabilités. Mais le Hamas n'entend pas laisser sa place. Même très affaiblie, l'organisation islamiste marque son territoire. Ses forces de l'ordre se sont déployées déjà en un temps record. Rami El-Megari a demandé aux Gazaouis leur avis sur la situation avec Sami Boukhelifa à Jérusalem. Reportage.
Des hommes en armes encagoulés qui défilent dans les rues de Gaza. La police du Hamas est de retour. Le mouvement palestinien fait une démonstration de force. Son message, il est toujours maître de la bande de Gaza. Si le Hamas reste au pouvoir, l'instabilité persistera, avertit Israël. Israël n'a pas son mot à dire, s'indigne Mohamed.
Les forces d'occupation israéliennes peuvent affirmer ce qu'elles veulent, mais c'est aux Palestiniens de décider de leur avenir. Nous devons constituer un gouvernement d'union nationale pour nous sortir de la crise et reconstruire Gaza.
Wael, lui aussi, est en colère contre l'État hébreu.
Qui sont les gens qui ont été tués par les Israéliens? Des innocents, des enfants, des femmes. Israël a détruit nos maisons et a commis un génocide. Les Israéliens ont tout détruit, sauf le Hamas. Le Hamas reste en place.
Mais ce n'est pas une bonne chose, regrette Randa.
Je ne souhaite pas qu'un parti soit seul au pouvoir à Gaza. Nous voulons un gouvernement d'union qui représente l'ensemble des Palestiniens et nous voulons des jeunes, de nouveaux visages. Le peuple n'en peut plus de ceux qui s'accrochent au pouvoir.
Rami El-Merali, Gaza, Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Enfin, un peu de culture pour refermer ce journal et du rap américain.
À des années-lumière des Village People prisés par Trump, la voix de Mac Miller résonne à nouveau, fervent opposant du président élu, décédé il y a 7 ans à la suite d'une overdose à l'âge de 26 ans. C'est donc un album posthume qui vient de sortir, Edmond Sadaka.
Mac Miller s'était fait remarquer une première fois en 2011 avec l'album Blue Side Park et surtout avec une chanson intitulée Donald Trump. Le titre avait comptabilisé des dizaines de millions de vues sur Internet. Le rappeur natif de Pittsburgh en Pennsylvanie critiquait vivement celui qui à l'époque était une vedette de télévision connue pour sa fortune et ses différentes épouses. Durant toute sa carrière, Mac Miller, qui fut notamment le compagnon de la chanteuse Ariana Grande, a lutté contre la dépression et la toxicomanie, un thème souvent traité dans ses chansons. L'album posthume qui vient de paraître ne déroge pas à la règle. Les 14 titres mélangent euphorie et spleen. Parmi les titres, une collaboration qui était très attendue avec la chanteuse de R&B SZA. Cet album posthume circulait sous le manteau depuis déjà plus de 10 ans sur la toile. Sa publication officielle met donc un terme à toutes les versions non autorisées, mais surtout elle offre au disque l'ampleur qu'il mérite. Some angry banker or some kind of money trader recently divorced a drunk driving down the highway and drove off the bridge to his wedding song. Blew out the bass in the speakers, you could still hear the trouble going. The hospital was useless and everything was quiet but the music. Recently I only meet peace when in deep sleep in the same dream. World safe, smile on her face, waiting on the other side. I wonder if he'll take me to the other side, yeah. What your eyes see, too naive for war, and that'll screw you. Still bet it all on the glory, hallelujah. I heard the answer in the gibberish of an old drunk. All he said was he's in no rush. If I could just pay my rent by Tuesday, I bet I'd be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he smuggled constellations in a suitcase. Don't you love silence? Everything quiet but the music.
Funny Poppers, extrait de l'album posthume de Mac Miller, sorti vendredi dernier, Anne.
Merci Karine Bellicha. RFI Midi, suite et fin tout de suite. Nous sommes bien sûr aux États-Unis.
Édition spéciale, investiture de Donald Trump. Anne Cantner.
Pour parler donc de Donald Trump qui prend officiellement aujourd'hui les rênes, retour à la Maison Blanche 4 ans plus tard, retour plus puissant que la dernière fois. Lors de son premier mandat, on en parle avec notre invitée. Bonjour Fanny Lobby.
Bonjour.
Professeur associé en sciences politiques à l'Université d'État de Montclair dans le New Jersey, merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en ligne avec notre envoyé spécial à Washington, Vincent Souriau. Vincent, dans un peu plus de 3 heures maintenant, Donald Trump doit prêter serment. Hier, il y a eu des manifestations contre le nouveau président qui avait fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat pendant sa campagne. Quelle est l'ambiance ce matin dans la capitale américaine ?
L'ambiance est plutôt amazing, hein, si je devais transcrire l'enthousiasme des Américains. Beaucoup d'excitation parce que la ville est remplie de sympathisants pro-Trump, en réalité des familles qui sont montées à Washington pour cette prestation de serment avec les drapeaux, les badges et les casquettes rouges MAGA, Make America Great Again. À l'origine, cette cérémonie d'investiture, la fameuse image du président américain qui jure sur la Bible qu'il va respecter la Constitution, cette cérémonie devait avoir lieu en plein air. Les autorités ici attendaient jusqu'à 200 000 personnes sur le Mall, l'esplanade qui donne sur le Capitole. Ça s'est terminé en raison de la météo. Il va faire très froid, il fait environ moins 10 degrés en ce moment, il va faire moins 20 dans la journée avec un vent glacial, et Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas faire subir ça à ses partisans, ni aux policiers, ni aux organisateurs. Donc on se retrouve avec une cérémonie à huis clos, 600 personnes triées sur le volet présentes physiquement dans la rotonde du Capitole et seulement 20 000 spectateurs qui vont suivre ça dans l'enceinte d'une salle de spectacle, une sorte de fan zone géante où Donald Trump va venir saluer ses troupes en fin de journée. Ça laisse pas mal de monde sur le carreau parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles et déjà des files d'attente qui s'étendent, hein, un peu partout sur plusieurs pâtés de maison.
Avec évidemment des questions en ce qui concerne la sécurité, on imagine que tout le monde est un peu sur les dents, Vincent.
Oui, on sait que la police est nerveuse parce qu'elle a communiqué là-dessus, hein, sur la peur d'un loup solitaire. On sort aussi d'une campagne présidentielle où Donald Trump est passé tout près d'être assassiné. Donc oui, énorme présence des forces de sécurité. Il y a l'armée qui barre les grandes artères avec des véhicules blindés. Il y a les voitures de police, bien sûr, partout. Il y a les hélicoptères aussi, hein, pour la surveillance aérienne, des contrôles renforcés, minutieux sur les sites sensibles avec les chiens renifleurs, etc. Mais en réalité, ça se fait avec beaucoup de civilité et on ne ressent pas du tout de tension dans les rues de Washington. Ça ressemble plutôt à un jour de fête placé sous haute sécurité.
Alors, il est 8h12 là à Washington. Vincent, quel est le programme pour le reste de la journée ?
En ce moment, Donald Trump est à la messe. Ensuite, il prend le thé avec Joe Biden et son épouse à la Maison-Blanche. Ça devrait durer 3/4 d'heure environ. Sans doute d'ailleurs les derniers échanges directs entre ces deux hommes qui se détestent. Hein. Sorte de passation de pouvoir informelle. Et puis, ça va être le moment des prestations de serment, le moment que tout le monde attend. Le protocole veut que le vice-président J.D. Vance soit investi le premier. Il doit prêter serment vers 11h30 heure locale, donc 17h30 heure de Paris. Puis ce sera le tour de Donald Trump qui doit prêter serment aux alentours de midi. L'autre temps fort traditionnel de la journée, c'est la parade. En temps normal, c'est le parcours qui sépare le Capitole où se déroule cette investiture de la Maison-Blanche, un peu plus de 3 km hein, que l'on parcourt soit à pied comme certains présidents américains, soit en voiture. Mais cette fois-ci, on nous promet une parade donc en intérieur sur la scène de cette salle où seront réunis les sympathisants trumpistes. Ça devrait durer environ 2 heures avec des surprises. Donald Trump l'a promis hier et tout ça se termine avec un bal et une soirée de gala.
Vincent Souriau, en direct de Washington, on suivra ça évidemment avec vous. Voilà une originalité donc de plus pour Donald Trump, hein, Fanny Lobby. Le protocole n'est pas exactement le même que d'habitude aujourd'hui, y compris en ce qui concerne les invités pour cette cérémonie d'investiture.
Oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'invités qui viennent du monde privé, des dirigeants, notamment des entreprises tech qui sont présents, et également des représentants de pays étrangers, et notamment des pays qui font partie des pays que Trump considère comme amis, ou de gouvernements que Trump considère comme amis, donc notamment, par exemple, des représentants du gouvernement italien ou du gouvernement hongrois à qui on avait lancer des invitations.
Voilà, il y aura aussi des figures d'extrême droite du continent américain comme Javier Milei, le très autoritaire dirigeant du Salvador, Nayib Bukele. Jair Bolsonaro, lui aussi, était sur la liste, même s'il ne sera pas à Washington aujourd'hui. Et puis, on apprend dans la presse haïtienne que pour Haïti, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti à Washington qui sera présent. Toute la presse, évidemment, revient sur cette journée. Christophe Paget, on jette un œil avec vous sur ce que disent les journaux du continent.
Oui, hashtag Air Trump, retour au pouvoir, titre aux États-Unis El Diario, le quotidien espagnol, qui a rencontré les latinos de New York entre peur et espérance avant le nouveau gouvernement Trump. Espérance parce que selon un Colombien rencontré par le journal, les démocrates n'ont rien fait pour les migrants ou les travailleurs. Peur parce que, comme l'écrit au Brésil au Globo, Trump met entre autres l'accent sur les expulsions et le protectionnisme. Le Brésil cherche d'ailleurs des alliés pour résister aux assauts du nouveau gouvernement. De fait, titre au Mexique la Razón, c'est le début de temps difficile pour le Mexique et le reste du monde. Tout le contraire des États-Unis, affirme le conservateur Washington Times, qui parle d'un renouveau patriotique et se félicite de la fin de la catastrophe Biden. Certains essaient de limiter les dégâts. Avec les rapports commerciaux dans la balance, les chefs d'entreprise du Canada se bousculent à Washington pour l'investiture, note le Toronto Star. Le fait est que cette fois, écrit le New York Times, Trump rencontre de la déférence et non de la défiance. Ce qui n'empêche pas l'éditorialiste de la Prensa au Panama, dont Donald Trump menace de reprendre le contrôle du canal, de parler d'un retour triomphal du maccartisme aux États-Unis.
Voilà, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes avant cette investiture de Donald Trump qui doit prononcer tout à l'heure le traditionnel discours au Capitole et une volonté affichée déjà depuis plusieurs jours de ne pas traîner pour mettre en place ses promesses de campagne.
Les mesures de sécurité aux frontières que je présenterai dans mon discours d'investiture seront les plus agressives et les plus complètes que le monde ait jamais vues pour protéger nos frontières. Nous rétablirons rapidement le contrôle de notre souveraineté territoriale et de nos frontières. Nous expulserons tous les membres de gangs d'étrangers illégaux et tous les migrants criminels qui opèrent sur le sol américain. Et très bientôt, nous commencerons la plus grande opération de déportation de l'histoire américaine, plus grande encore que celle du président Dwight Eisenhower, qui détient le record pour le moment.
Voilà pour la promesse de Donald Trump. Fanny Lobby, c'est vraiment la priorité affichée, l'immigration, en termes de politique intérieure. Donald Trump en a parlé pendant toute sa campagne. Samedi encore, il avait répété que cette immense opération d'expulsion commencerait très très vite. Est-ce qu'on sait qui serait concerné ?
Alors, il y a très peu d'informations qui a circulé. Stephen Miller, qui gère la question de l'immigration, qui va gérer la question de l'immigration dans la nouvelle Maison-Blanche de Trump, a donné très peu d'informations. Ce qui a circulé, c'est que ce serait Chicago qui serait visé en premier. Donc, ce n'est pas étonnant que l'administration vise une grande ville démocrate pour ses premières opérations. Par contre, ce n'est pas du tout clair si ce sont des criminels, des personnes qui ont vraiment été convaincues de crimes qui vont être expulsées ou si l'administration va mettre en place, va multiplier des raids d'expulsion sur des lieux de travail, par exemple. Donc, étant donné que les villes, en général, les grandes villes démocrates refusent de coopérer avec les autorités sur la question de l'immigration, ce n'est pas très clair exactement, il n'est pas très clair comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont choisir, quels groupes vont être prioritaires pour ces expulsions. Ce qu'on sait, c'est que le Sénat va très certainement donner à Trump sa première victoire sur l'immigration cet après-midi en votant la première loi sur l'immigration depuis des années, qui a déjà été votée la semaine dernière à la Chambre des représentants. Et cette loi permettrait l'expulsion des immigrés qui ont tout simplement été accusés de crimes mineurs et non pas jugés coupables.
Donc ça, c'est une première étape. On en sait peu sur les personnes qui seraient concernées. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la manière dont ça pourrait se passer ? Donald Trump avait évoqué à une période la mobilisation de l'armée. C'est quelque chose qui serait possible ?
Ce qu'il cherche à faire, c'est de mettre en place un état d'urgence. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Il peut déclarer tout simplement un état d'urgence en disant qu'il y a une crise à la frontière qui lui permettrait de débloquer certains fonds automatiquement et de déployer l'armée le long de la frontière. Et, on sait qu'il a aussi cherché à mettre en place un état d'urgence médical, un peu ce qui s'est passé pendant la pandémie Covid, qui avait permis de fermer la frontière également. Mais tout simplement, ces deux solutions n'ont pas vraiment de justification puisqu'il n'y a pas d'urgence médicale en ce moment et que les arrivées à la frontière, les arrestations à la frontière sont en baisse comparées à il y a quelques mois et comparées à l'année dernière. Bon, après, les faits et les chiffres n'ont jamais freiné Donald Trump. Donc, il est possible qu'il déclare un état d'urgence à la frontière, ce qui lui permettrait de mobiliser l'armée et les ressources de l'armée le long de la frontière avec le Mexique.
Ça, c'est quelque chose qu'il peut imposer aux États ?
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui dépend complètement de toute façon, la frontière dépend du gouvernement fédéral, l'armée dépend du gouvernement fédéral, et donc les États frontaliers, notamment, on pense à un État comme le Texas et l'Arizona, enfin, surtout le Texas, vont très certainement bien vouloir collaborer avec les forces fédérales sur la question de l'immigration, puisqu'ils ont eux-mêmes essayé de gérer l'immigration l'année dernière, ce qui avait créé un conflit entre le Texas et l'administration Biden. Donc on pense bien que le Texas sera plus que partant pour collaborer avec une administration Trump sur la question, sur le renforcement de l'immigration, même si, une fois de plus, les arrivées à la frontière sont en baisse, et ce sont des arrivées qui se font dans des ports d'entrée avec des gens qui ont pris rendez-vous avec l'administration plutôt que des traversées illégales de la frontière.
En tout cas, c'est un sujet qui fait énormément débat. On l'a entendu lors de manifestations qui étaient organisées hier à Washington par des opposants à Donald Trump. D'autres rassemblements sont prévus encore aujourd'hui. Vincent Souriau, Donald Trump doit prendre la parole au Capitole. La dernière fois qu'il y avait été mêlé, le 6 janvier 2021, il y avait eu les conséquences que l'on connaît, cette attaque menée par ses partisans. Là encore, donc, il va y avoir des rassemblements moins violents, en principe, en tout cas on l'espère. Mobilisation dans les deux camps, hein, des deux côtés, c'est ça ?
Oui, mobilisation dans les deux camps. Bon, du côté des partisans de Donald Trump, on s'attend surtout à une foule de sympathisants qui est venue à Washington pour assister à ces cérémonies et dans la joie et la bonne humeur. Ils ont gagné, comme il l'a dit hier lors de son dernier meeting de président élu. Il a commencé ce rassemblement comme ça en disant « Nous avons gagné, c'est une évidence pour tout le monde ». Et là, disons que l'ampleur de la victoire en impose. Dans le camp d'en face, samedi dernier déjà, hein, il y a deux jours, C'était de la mobilisation, mais quelque peu désespérée. Une coalition de rassemblement d'organisations démocrates désespérée parce que la plupart des sujets qui ont été mis en avant par Joe Biden vont être détricotés dès les premiers jours. Hein. On s'attend aujourd'hui à ce que Donald Trump signe jusqu'à 200 ordonnances qui vont commencer à mettre en œuvre son programme. Et les gens à qui on parlait en ville, que ce soit sur le climat, sur le droit des femmes, sur l'immigration, dont vous parliez, mais aussi sur l'énergie, sur l'état de droit. Il y a toujours des inquiétudes dans cet électorat démocrate autour de la démocratie américaine et de ce que Donald Trump pourrait faire avec l'aide d'Elon Musk qui inquiète beaucoup dans son rôle de conseiller de l'ombre.
Et des méthodes employées. Vincent Souriau, vous étiez en direct de Washington. Je vous propose d'écouter maintenant un témoignage qui a été recueilli par notre envoyé spécial au Texas à propos donc de ses ambitions, de la politique migratoire de Donald Trump. C'est celui, ce témoignage du directeur de l'ONG Loupé.
Notre communauté a toujours été une cible en raison de notre position géographique juste à côté de la frontière mexicaine. On a déjà beaucoup souffert sous la première administration Trump. On a vu des séparations de familles, des enfants enfermés dans des cages. Mais il faut dire que le président Joe Biden a également expulsé beaucoup de gens. Donc peu importe le résultat de l'élection de l'année dernière, on savait qu'on allait devoir se préparer, quel que soit le président. Mais aujourd'hui, avec Donald Trump qui retourne à la Maison-Blanche, on sait que la menace est encore plus grande. Il parle de retirer la citoyenneté à certaines personnes. Il soutient l'idée de déportation massive. Si cette mesure est mise en œuvre, l'impact ici dans la région serait très grave. Beaucoup de familles qui vivent dans la vallée du Rio Grande comptent au moins un membre en situation irrégulière. Et souvent, ce sont les deux parents qui n'ont pas de papier. Une expulsion massive aurait des conséquences énormes.
Fanny Lobby, est-ce qu'il faut s'attendre en effet à voir de nouveau des familles séparées comme ça avait été le cas durant le premier mandat de Donald Trump et ça avait vraiment beaucoup marqué à l'époque ?
Oui, je pense que c'est possible parce que l'architecte de cette décision est de retour à la Maison-Blanche et les Républicains ne sont jamais revenus sur le principe d'une telle politique. Et donc, il est tout à fait possible que cette méthode soit utilisée pour encourager les immigrés potentiels à ne pas arriver aux États-Unis. En fait, c'est vraiment une méthode qui a été utilisée pour décourager les familles de venir. Et bien qu'il y ait eu des enfants perdus pendant des années, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pu les ramener dans leur famille ou les remettre dans les mains de leurs parents ou de leur famille, ça n'a posé aucun problème aux républicains à l'époque. Et donc, il est parfaitement possible que l'administration Trump reprenne cette décision, mette en place cette décision. Il est aussi parfaitement possible que l'administration ne suive pas les principes habituels, notamment quand on pense aux aux raids sur les lieux de travail. Bon, il y a encore des règles qui ont été suivies ces dernières années, sur, comme par exemple de ne pas aller chercher des immigrés dans les écoles, ou de ne pas séparer des familles, ou de ne pas expulser quelqu'un qui aurait des enfants citoyens américains, ou du moins pas immédiatement. Il n'est pas du tout sûr que ces règles soient suivies dans les mois qui viennent.
Donc un certain nombre de mesures qui pourraient être très radicales à ce que vous nous dites pour mettre en place ces ambitions de Donald Trump, et pourtant elles inquiètent évidemment les immigrés d'abord, mais aussi différents secteurs. Je pense par exemple aux agriculteurs, la presse s'en était fait l'écho. Quelles seraient les conséquences pour ce secteur et pour l'économie en général si le président mettait effectivement son projet à exécution ?
Alors, je pense que les conséquences seraient assez désastreuses pour de nombreux secteurs. Il y a évidemment le secteur de l'agriculture, il y a aussi le secteur de la construction, le secteur des services à la personne, qui dépendent énormément d'une main-d'œuvre immigrée. Faut savoir, par exemple, rien que pour des services de garderie, comme il n'y a pas d'école maternelle publique aux États-Unis, beaucoup de personnes dépendent de services privés pour faire garder leurs enfants. Et donc, s'il y a eu des expulsions massives, non seulement certaines quitter le territoire, mais d'autres personnes qui sont à risque tout simplement ne sortiront plus de chez elles, ne prendront plus le risque de sortir de chez elles, et donc disparaîtront également du marché du travail, non pas parce qu'elles ont été expulsées, mais parce qu'il est trop risqué de se rendre sur leur lieu de travail ou tout simplement d'envoyer leurs enfants à l'école. Et on voit déjà que c'est le cas dans certaines grandes villes où il y a beaucoup de populations immigrées, où les enfants de ces familles immigrées ont commencé à rater des jours d'école depuis le mois de novembre, de peur que les parents soient arrêtés en allant à l'école le matin.
Donc des conséquences très concrètes pour les familles et notamment pour les enfants, des conséquences pour l'économie. Et puis il y a aussi le coût lui-même de toutes ces opérations que Donald Trump veut mettre en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'État fédéral peut absorber ? Et est-ce que Donald Trump sera suivi par le Parti républicain ?
Ça, c'est la grande question, parce que beaucoup des promesses de Trump vont coûter très cher. Je pense que la question pour les républicains, ce n'est pas vraiment d'une part, il y a les revenus, donc il y a la question des baisses d'impôts qui avaient été votées en 2017, qui arrivent à leur fin, là, à la fin de l'année, et donc qui doivent être revotées au Congrès cette année. Donc il y a ça, il y a les baisses d'impôts qui ont été promises pendant la campagne de Trump, donc des baisses d'impôts supplémentaires, et ce coût d'expulsion massive qui représenterait un coût phénoménal. C'est pour ça que Trump envisage cette déclaration d'un état d'urgence qui lui permettrait de débloquer des fonds alloués au budget militaire et d'utiliser ces fonds-là pour passer au-delà, pour ne pas avoir à passer par la case Congrès pour obtenir des fonds pour financer ces expulsions.
Ça, ce sont les options que Donald Trump a à disposition. Un certain nombre d'États, de villes ont fait savoir qu'elles ne collaboreraient pas, comme par exemple la Californie ou la ville de Los Angeles, qui s'est présentée comme une ville sanctuaire pour les immigrés. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de voir vraiment le pays se diviser, se fracturer sur cette question de l'immigration ?
Oui, c'est possible, mais ça, c'est pas nouveau. Donc, c'est le combat entre l'administration Trump et les villes sanctuaires, ça date du premier mandat de Trump, qui, à l'époque, avait menacé ces villes sanctuaires en leur disant « Si jamais vous annoncez que vous êtes sanctuaire et vous ne collaborez pas avec les autorités fédérales, nous allons retirer les fonds auxquels vous avez droit pour d'autres programmes, par exemple l'éducation, la sécurité, l'environnement, etc. » Et à l'époque, les cours de justice avait interdit à l'administration Trump d'utiliser ces menaces financières pour forcer cette collaboration de la part des villes. Vu la tendance actuelle de la Cour suprême américaine, je doute qu'elle donne raison aux villes contre Trump si une telle question était posée dans les années qui viennent, s'il y avait un combat judiciaire sur la question des villes sanctuaires, qui est une vraie question. Est-ce que beaucoup de villes ont annoncé qu'elles sont sanctuaires, donc ça veut dire qu'elles ne partagent pas les informations liées à l'immigration avec les autorités fédérales américaines, notamment donc, quand une personne est arrêtée par la police locale ne note pas leur statut d'immigration. et ne partagent pas cette information avec les autorités fédérales. Donc c'est ça que ça veut dire être une ville sanctuaire. Et donc ça vient de cette espèce d'équilibre entre les droits des États, les droits des villes et les responsabilités du gouvernement fédéral. Mais ces responsabilités sont en général assez disputées.
Merci beaucoup Fanny Lobby. C'est ainsi que se termine cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes professeure associée en sciences politiques à l'Université d'État de Montclair dans le New Jersey. Cette investiture de Donald Trump, RFI vous la fait vivre tout à l'heure en direct sur notre antenne à partir de 16h30, temps universel, et sur internet rfi.fr dès 15h, temps universel. Très bonne journée à tous.